chers collègues.
Les quatre saisons.
Welcome Annie Derin.
La politique est un cycle, avec ses promesses, belles et fragiles comme le printemps.
Nous avons un beau projet.
Thank you, Monsieur.
Ses succès, brûlants comme l'été.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution.
Merci, Monsieur le Premier. Nous pouvons.
Ses trahisons, tumultueuses comme l'automne.
L'image que nous renvoyons à la population est absolument dégueulasse.
That's not Michael Jackson, hein?
Ses échecs, ses crises, longues et stériles comme l'hiver.
Le respect mutuel permet de s'écouter.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Salut Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on a bien vu qu'un tas de monde voulait un déconfinement.
On s'en approche, mais c'est pas encore vraiment le moment.
Sauf pour certains qui arrivent à mieux se faire entendre.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ?
Hiver.
Vous aussi, vous l'avez entendu ces derniers jours.
Réveillons-nous tous ensemble !
Cette symphonie de revendications.
Je pense qu'il va falloir se poser des questions à un moment donné, oui.
La pression pour déconfiner vient de partout.
J'ai envie de pleurer, donc on est au bout.
De l'Horeca.
On a tout fait, on a tout essayé.
Des UNIF.
Que ce ne soit pas les étudiants de 18 à 25 ans qui payent en quelque sorte le prix.
Des cultes.
15 personnes dans la basilique de Kuckelberg, imaginez, imaginez.
De la culture.
C'est difficile, l'impression ne servira plus rien, il faut que ça bouge.
Alors on s'est demandé cette semaine comment tous ces secteurs font entendre leur voix. Comment les groupes de pression peuvent influencer les mesures sanitaires. Car en coulisses, certains ont clairement su tirer leur épingle du jeu.
Les salons de coiffure ouvrent leurs portes.
On repousse de 3 cm.
Les coiffeurs et les coiffeuses reprennent du service.
Pour les coiffeurs.
Couleur terne.
Les salons de coiffure.
Leurs coiffeurs adorés.
Les coiffeurs sont désormais cités en exemple.
On a réouvert au fur et à mesure dans la société différentes vannes. Récemment, c'est la vanne des coiffeurs, des coiffeuses.
Comme par l'un des organisateurs des dernières manifs pour la culture.
Ben aujourd'hui, on veut que la culture puisse revivre.
Comment ont-ils fait pour obtenir ce dont tant d'autres rêvent ? Comme si les coiffeurs avaient été des précurseurs. Le cheval de Troie qui nous ouvrirait enfin les portes du déconfinement. Et c'est vrai qu'on a pu y croire le temps d'un week-end.
On a tous été un peu surpris, il faut bien dire, par la météo.
On a cru que le beau temps chassait l'hiver.
Ce sont des températures qui sont dignes en fait d'un mois de mai.
Et annonçait aussi le déconfinement.
On va aller manger des glaces.
Un an de mesures sanitaires n'a d'ailleurs pas étouffé certains réflexes bien belges.
On va nager.
Dès les premiers rayons de soleil, les bouchers se frottent les mains.
Une bonne chose pour le moral et les fans de barbecue, ils ont déjà réservé leur viande.
Des tranches de lard, des saucisses grillées au barbecue.
Ce printemps avant l'heure,
des côtes d'agneau marinées,
nous a donné l'illusion d'un possible retour à la normale.
De brochettes.
Différents partis de la majorité,
bonjour,
ont même soufflé sur les braises de ce barbecue précipité.
Nous sommes normalement tenus à vivre dans une bulle à l'intérieur limitée à une personne.
Est-ce que vous, Jean-Marc Nollet, vous arrivez à respecter cette bulle ?
Non. Non.
Limitez-vous à un contact rapproché.
Alors forcément,
portez un masque.
À quelques jours d'un comité de concertation,
respectons les règles.
On a pu croire que les coiffeurs allaient être les premiers d'une longue série.
Ouais.
Mais c'est bien connu.
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Pour faire retomber toute cette pression,
c'est le bon moment d'apporter un peu de sérénité.
Alexander De Croo a sorti une arme imparable.
La réalité, les chiffres,
les graphiques.
L'axe horizontal qui représente l'évolution dans le temps.
Des modèles mathématiques.
L'axe vertical qui représente ici le nombre de nouvelles hospitalisations.
Et ça a jeté un froid.
Nous sommes toujours en hiver, on n'est pas encore avec un grand beau temps.
Pas besoin d'être biostatisticien.
Scénario A.
Pour comprendre le message du Premier ministre et de ses experts.
Scénario B.
Selon leur modèle, pour éviter les gros dégâts,
restez très prudent pour éviter une troisième vague.
Il faut attendre avril au plus tôt.
Scénario C.
Pour imaginer un déconfinement généralisé.
Le fait qu'on doit rester prudent en mars ne veut pas dire que des déconfinements additionnels ne seront pas possibles en mars.
Des déconfinements additionnels. Mais on restera donc dans le régime du cas par cas, du secteur par secteur. Après les coiffeurs, les zoos, les auto-écoles, qui seront les suivants à retrouver la liberté ? Le concert de revendication va se poursuivre. Les pressions s'intensifient. Certains secteurs trouveront peut-être l'oreille des décideurs.
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Non.
Et on profite encore d'une petite bouffée de ce morceau de Patti Smith qui était chanté pendant l'une des manifestations de la culture ce week-end. Il y en a eu un petit peu partout dans le pays. Imad, la culture, c'est avec l'Horeca un des secteurs qui peut-être souffre le plus du carcan des mesures sanitaires aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'ils ne parviennent pas à se faire entendre ?
C'est paradoxal parce que la presse écrite, audiovisuelle, a donné beaucoup de place à l'Horeca, beaucoup de place à la culture. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces deux secteurs ont-ils pensé que ça suffisait pour faire pression sur le monde politique ? On peut penser que non.
Mais on peut aussi penser qu'il y a des raisons intrinsèques propres à ces secteurs qui font que c'est très très difficile de les rouvrir. Des raisons purement sanitaires.
Tout à
évidemment,
fait.
L'Horeca, on sait que c'est un secteur porteur de risques épidémiologiques. La culture aussi, qui entraîne des grands rassemblements. Donc il y a aussi des éléments factuels sanitaires qui empêchent de rouvrir ces secteurs-là.
Oui, il y a de ça, mais je pense aussi qu'il y a peut-être un manque de professionnalisation. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés, mais est-ce qu'ils ont réussi à entrer dans les bons cénacles pour faire passer le message et essayer de trouver des protocoles ? Pourquoi, en Belgique, on n'a pas réussi à, par exemple, ouvrir l'Horeca, les restaurants, sur le temps de midi ? On a vu qu'il y avait ça en Italie. Pourquoi les Italiens ont pu le faire et pas nous ? Ça, c'est une question que je me pose. C'est peut-être parce qu'il y avait une différence dans la façon d'appréhender le monde politique. C'est en tout cas ce que pense Emmanuel André. On l'écoute.
On a vu des secteurs se professionnaliser. D'autres, quelque part, sont restés plus discrets, plus empathiques par rapport à la crise sanitaire et se sont moins exprimés de cette façon-là, de façon professionnelle, avec une logique de lobby. On a eu donc des secteurs comme la culture, l'enseignement jusqu'à un certain point aussi, qui quelque part ont été mis un peu de côté en termes de priorité. On a vu émerger des secteurs que quelque part, monsieur et madame tout le monde ne connaissait pas en tant que structure de lobby.
Donc là, il semble en tout cas confirmer qu'il y a des pressions, qu'il y a des groupes qui se constituent en lobby et qui viennent demander aux décideurs de lâcher un peu de lest.
Ouais, c'est ça.
Elle est forte, cette pression-là, sur les décideurs ?
Ah, elle est permanente. En tout cas, moi, on me dit que c'est invraisemblable et que c'est une période très, très compliquée pour le personnel politique, que ce soit les ministres ou que ce soit les collaborateurs. Il y a un truc, peut-être, que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Après quelques années, pour à peu près quiconque s'approche un petit peu des milieux politiques, tu as rapidement les numéros de téléphone directs des ministres, des collaborateurs. C'est assez simple. Et on a un exemple assez concret lors de cette pandémie, c'est les coiffeurs qui ont réussi à atteindre rapidement les politiques. Et c'est ce que nous explique de façon assez ouverte Charles-Antoine Heubrecht. Il est le président de la Fédération des coiffeurs belges.
On a communiqué premièrement par des petits communiqués de presse très gentil, très calme. Et à partir du moment où on a eu la traction de la presse, on a commencé à se faire entendre. Parallèlement à tout ça, on a également, grâce à UCM et Uniso, eu énormément de contacts avec les cabinets ministériels, où là, petit à petit, on a pu tisser notre toile et faire part de notre mécontentement et venir, évidemment, avec des éléments très factuels en vue de prouver qu'on n'est pas un métier à risque qui allait propager le virus.
Oui, donc ici, ce porte-parole des coiffeurs, il nous dit qu'il y avait dans leur chef une vraie stratégie, en fait.
Tout à fait, et une stratégie qui a bien fonctionné, parce qu'on s'est rendu compte, lors du premier déconfinement, l'an dernier, eh bien que les arguments des secteurs se retrouvaient à la table de la négociation, et ça, c'est Emmanuel André qui nous le dit.
On a vu, à certains moments, certains politiques venir avec des contre-arguments qui sont des arguments biaisés et qui étaient typiquement ceux de certains lobbies. Donc, quelque part, à certains moments, oui, je pense que certains politiques ont été plus alimentés par des théories et des motivations de lobby que par des motivations scientifiques et médicales.
Oui, on entend bien dans ce qui dit que ça peut porter, effectivement. Reste que les coiffeurs, les métiers de contact, ce n'est pas du tout un secteur aussi important en termes d'impact
que des secteurs comme l'événementiel, le culturel et l'horeca.
Tout à fait, mais ça n'a pas empêché quand même tout un tas d'autres secteurs de tenter de se frayer un chemin dans le déconfinement. Alors, on parle plus de celui de l'an dernier, évidemment, mais par exemple, les toiletteurs pour chiens, enfin pour animaux, eux ont bataillé à mort pour pouvoir faire partie des métiers essentiels. Alors, ils avaient envoyé comme ça à différents cabinets toutes les raisons pour lesquelles eux pouvaient se targuer de pouvoir ouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, tous les groupes de pression, tous les lobbies disent la même chose. Nous, ça va. C'est chez les autres que ça pose problème.
Oui, et face à ça, on sent qu'il y a un mécanisme de défense aussi de la part du gouvernement fédéral. On a vu cette semaine Alexandre De Croo qui sortait l'artillerie lourde avec ses graphes, cette conférence de presse un peu impromptue qui arrive tout à coup un lundi. Est-ce que c'est aussi une manière, à un moment, de couper l'herbe sous le pied de ces groupes de pression, de ces lobbies?
Alors c'est tout à fait ça, c'est une manière de couper l'herbe sous le pied des lobbies. Mais c'est aussi une façon de couper l'herbe sous le pied de ses ministres. Chaque semaine, on connaît la chanson, interview à la radio, interview en presse écrite avec des demandes, parfois qui ne sont pas discutées, parfois qui ont déjà été avalisées. Hein. On a vu ça plusieurs fois. Et c'est vrai que tu regardes aujourd'hui, cette semaine, ça s'est calmé. Ça s'est calmé aussi parce que les chiffres épidémiologiques ne sont pas très bons et n'incitent pas à demander un déconfinement, en tout cas beaucoup de mesures importantes. Mais c'est clair que c'est une façon assez brutale, il faut le dire, de la part d'Alexandre De Croo, de bloquer le débat, de cadenasser le débat. Après, ça ne veut pas dire que vendredi, on n'aura pas des annonces. Il y aura très certainement des perspectives. Mais c'est vrai que pour le débat public, c'est pas plus mal. Après, on peut aussi se poser la question du nombre de comités de concertation. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Une fois toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines, c'est peut-être beaucoup. On pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de comités de concertation avant très tard au mois de mars.
Oui, parce qu'il faut vraiment attendre de voir l'effet des variants sur la propagation de l'épidémie. La semaine dernière, on était encore avec des très bons chiffres, les indicateurs étaient au vert. Maintenant, c'est l'inverse. On voit une tendance à la hausse dans les contaminations et très souvent, ça se traduit plus tard sur les hospitalisations, voire sur les décès.
Et si tu donnes rendez-vous pour un comité de concertation d'ici deux semaines, par exemple, ben ça met d'office la pression, ça te donne une petite semaine de rab et puis tout de suite après, tu as de la pression. Et pour l'avis d'un gouvernement, en plus, qui est assez focalisé, malheureusement, sur les questions liées au coronavirus, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faudra...
de plus en plus divisé, on l'a dit dans l'épisode précédent, et on l'a encore vu ces derniers jours. La sortie de Jean-Marc Nollet, cette semaine, c'est quand même un cas d'école.
C'est un cas d'école, mais ça pose une très bonne question. Est-ce qu'il faut dire absolument la vérité quand on est un responsable politique? Un responsable politique, il est censé donner l'exemple, a priori. Mais est-ce que mentir, c'est donner l'exemple? Je pense qu'un très grand nombre de responsables politiques n'auraient pas dit la vérité, parce que cette vérité, elle coûte cher. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs que le Vlaams Belang soutient Jean-Marc Nollet.
Ça fait mal, évidemment.
Évidemment, le genre de choses qui ne va pas. Groen, c'est quand même, on sait qu'ils sont carrément ensemble dans le même bâtiment. Groen se distancie également de ce qu'a pu dire Jean-Marc Nollet. Donc c'est compliqué. Alors Écolo, il faut savoir qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup de choses qui sont faites en interne. Et il y a une commission santé d'Écolo qui s'est réunie la semaine dernière. Et donc il y a un rapport qui existe qui disait qu'en termes de santé mentale, c'était très compliqué. Ce qui explique les sorties d'Écolo. Donc c'est un petit peu moins purement politique.
Parce que Desuquen lui demandait déjà d'élargir la bulle, ce qui n'est absolument pas sur la table du comité de concertation de cette semaine.
Exactement, ce n'est pas du tout sur la table et ce n'est pas du tout l'habitude d'Écolo de sortir de façon à ce point-là groupée. Donc voilà, ça ne vient pas tout à fait de nulle part. Mais c'est vrai que cette sortie de Jean-Marc Nollet va laisser des traces, très certainement.
On verra ce que ça donne. Ce sera peut-être l'occasion d'en faire un prochain épisode. À la semaine prochaine, en tout cas, on vous revient très rapidement.
À bientôt.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi. Mis en musique par Jérémy Boquet.